Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Nous assistons à une véritable politique d'apartheid social qui vise les femmes afghanes, des mots du président du Rassemblement des musulmans de France. Anouar Bibesh fait partie d'un groupe de leaders musulmans en Europe qui exprime sa solidarité avec les femmes d'Afghanistan. Nous l'écouterons. Les transports publics fortement perturbés ce lundi à Tunis, en cause un mouvement de protestation des agents de la principale compagnie de tramway et de bus. Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens, c'est arrivé en marge d'une opération en Cisjordanie occupée. Gros plan sur le peuple kurde. La communauté kurde de France, endeuillée par la mort de trois de ses membres le 23 décembre dernier, regarde dans ce journal sur ce peuple sans état avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la région du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le corps de Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 96 ans, est exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il s'agit de rendre un dernier hommage au feu pape émérite. Les médecins libéraux poursuivent leur grève. Ils souhaitent que le coût de la consultation passe de 25 à 50 euros. Le Conseil européen des leaders musulmans exprime sa solidarité avec les femmes en Afghanistan. Ces leaders européens estiment que les mesures prises par les talibans empêchant les femmes d'étudier et de travailler sont contraires à l'islam. L'un des signataires de ce communiqué, le français Anouar Bibesh, président du Rassemblement des musulmans de France.
Effectivement, depuis l'arrivée des talibans en août 2021, nous assistons malheureusement à une véritable politique d'apartheid social qui vise les femmes afghanes. Il y a eu l'interdiction de l'accès au parc public aux femmes, l'interdiction de participer à des activités d'ONG, qu'elles soient d'ailleurs locales ou internationales. Ça a commencé également par l'interdiction de l'accès aux jeunes filles au collège et au lycée. Et puis ces dernières semaines, nous avons été stupéfaits par l'interdiction d'accès des femmes à l'université. Et au sein du Conseil des leaders musulmans d'Europe, nous avons tenu à dénoncer avec force cette volonté d'aseptiser l'espace public de toute présence ou de visibilité féminine. Et c'est un devoir pour nous de dénoncer cette politique de discrimination systématique.
Interdire aux femmes d'étudier et de travailler en Afghanistan, ça n'est pas une vision rigoriste de l'islam, c'est pour vous le contraire même de l'islam ?
Oui, tout à fait. C'est ça le paradoxe, c'est que tout ceci est commis au nom de la religion musulmane. Or, la religion musulmane est totalement étrangère et ses prescriptions et ses recommandations sont totalement contraires à ces interprétations rétrogrades que pratique le gouvernement taliban d'Afghanistan. L'islam incite à la recherche de la science, à la recherche de la connaissance du berceau jusqu'au tombeau. Il y a de nombreux hadiths, de nombreuses paroles du prophète qui vont dans ce sens. Il y a une forte incitation même à travers un hadith du prophète d'aller chercher la connaissance même en Chine, à un moment où pour arriver en Chine, il fallait des mois, voire des années de voyage. Donc tout ceci est une incitation très forte de la part de l'islam à l'éducation et à la formation. Et ceci, bien sûr, concerne toutes les composantes de la société, que ce soit les hommes et les femmes. Et le fait que ceci soit commis au nom de la religion musulmane est tout simplement catastrophique dans la mesure où il conforte ceux qui interpellent l'islam et les musulmans sur l'égalité homme-femme. Et nous tenons à dénoncer tout à fait cet amalgame qui est complètement contraire aux valeurs et aux préceptes de l'islam. D'autant plus que la société ne peut être amputée de sa moitié qui est représentée par les femmes qui elles-mêmes contribuent à la formation et à l'éducation des générations futures. Donc c'est une catastrophe totale et nous espérons qu'à l'aube de cette année 2023, il y ait une réelle prise de conscience et des prises de parole de la part de tous les acteurs politiques, économiques, associatifs, sociaux, culturels, pour dénoncer ces pratiques et faire toute la pression nécessaire sur le gouvernement afghan pour qu'il revienne à la raison.
Anouar Ghibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, il répondait à Loïc Barrière. Les forces israéliennes ont tué 2 Palestiniens ce lundi. C'est arrivé en marge d'une opération en Cisjordanie occupée. Opération visant à détruire la résidence de Palestiniens accusés d'être impliqués dans une attaque meurtrière contre un commandant israélien. D'après le ministère palestinien de la Santé, les Palestiniens décédés ont été tués par des tirs israéliens lors d'un raid de l'armée dans le secteur de Jenin. Plus de 45 000 exilés ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2022 en traversant la Manche. C'est presque 2 fois plus qu'en 2021. Ces traversées se font dans des embarcations de fortune, au péril de la vie des candidats à l'exil. Le mois dernier a été marqué par le naufrage d'un canot pneumatique qui transportait des dizaines de migrants depuis la France. C'était le 14 décembre. 4 d'entre eux sont morts, des Afghans et des Sénégalais. Les transports publics sont fortement perturbés ce lundi à Tunis, en cause un mouvement de protestation des agents de la principale compagnie de tramway et de bus. Tunis, où les taxis individuels sont aussi en grève, mouvement à l'appel des différentes chambres régionales des taxis individuels. Un mouvement décidé le 22 décembre dernier pour protester contre la non-publication du décret lié à l'octroi des autorisations. L'état d'urgence a été prolongé d'un mois en Tunisie. Le 18 février dernier, il avait été prolongé du 19 février au 31 décembre 2022. Cette mesure a été décrétée le 24 novembre 2015 après l'attentat terroriste qui a visé un bus de la sécurité présidentielle faisant 12 morts et 16 blessés. Elle a depuis été reconduite sans interruption. Gros plan sur le peuple kurde. La communauté kurde de France a été endeuillée par la mort de 3 de ses membres le 23 décembre dernier. Une attaque commise dans le 10e arrondissement de Paris. Regard sur ce peuple sans état avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. David Rigoulet-Rose.
Le peuple kurde est aujourd'hui encore une nation sans état, au sens strict du terme, puisque effectivement il y a une identité culturelle, linguistique, même s'il y a des dialectes kurdes. Il y a un ensemble géo-culturel kurde qui est à cheval sur plusieurs pays du Moyen-Orient, principalement l'Irak, l'Iran, la Turquie et également la Syrie, le nord de la Syrie. Et il se trouve que les Kurdes avaient, à l'issue de la Première Guerre mondiale, eu la promesse d'un État qui n'a jamais été concrétisé. Et depuis lors, finalement, l'ensemble des États dans lesquels ils sont répartis s'entendent, malgré les divergences des États entre eux, s'entendent généralement, il y a un dénominateur commun pour réprimer justement l'identité kurde et les revendications autonomistes, sinon indépendantistes des Kurdes. Donc c'est effectivement une nation sans État, dont les populations ne sont pas logées à la même enseigne d'une certaine manière entre les différents États, puisqu'il y a un État particulier, en l'occurrence l'Irak, où il y a un gouvernement régional kurde, et ce qui a fait précédent à l'issue de la première guerre de la guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Et en revanche, dans les autres États, il y a des minorités kurdes qui sont effectivement plus ou moins réprimées par les différents pouvoirs centraux.
Une minorité kurde présente notamment en Syrie, les Kurdes qui ont été particulièrement actifs dans la lutte contre le terrorisme en Syrie.
Oui, la minorité kurde effectivement a eu un rôle déterminant, notamment en collaboration avec la coalition internationale anti-Daesh, mis sur pied en août 2014, et il y a eu effectivement une partie de cette minorité kurde regroupée dans les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait, dont le noyau dur est essentiellement composé par les Kurdes, même s'il y a également des Arabes, et qui a participé activement à la lutte contre Daesh, principalement dans le nord de la Syrie. Mais il se trouve que le nord de la Syrie est une zone très sensible parce qu'évidemment elle est limitrophe de la Turquie et on sait que la Turquie a un problème majeur avec la question kurde et donc il y a un effet boomerang évidemment par-delà les frontières régionales.
Et vous soulignez qu'ils ont pris le contrôle d'une grande partie du nord-est de la Syrie.
Ils avaient pris le contrôle à la faveur en réalité de la guerre civile débutée en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad, avec lequel les Kurdes ont toujours entretenu une relation prudentielle, par intérêt bien compris d'ailleurs de part et d'autre, parce que ce n'était pas le principal danger pour le régime de Bachar al-Assad, qui trouvait son intérêt momentanément. Mais effectivement, il y a eu une forme d'autonomie de fait qui s'est instaurée dans ce qu'on appelle le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan occidental, qui n'a pas fait les affaires évidemment du voisin turc, qui est aux prises avec le PKK sur son propre territoire et qui accusait évidemment les Kurdes de Syrie de simplement d'être une émanation du PKK en Syrie, ce qui justifie de la part d'Ankara évidemment un certain nombre d'opérations militaires depuis lors.
Le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan.
Le Parti du Travailleur du Kurdistan, qui est effectivement omniprésent dans les régions kurdes de Turquie.
Aujourd'hui, les forces démocratiques syriennes, les FDS, contrôlent une zone dans laquelle sont détenues des dizaines de milliers de djihadistes en Syrie.
Elles ne contrôlent plus toutes les zones qu'elles contrôlaient à un moment dans la guerre civile, puisqu'il y a eu 4 opérations en fait de l'armée turque, d'abord bouclier de l'Euphrate, d'août 2016 à mars 2017 sur la ville de Jarablus. Il y a eu une deuxième opération Rameau d'Olivier qui visait spécifiquement le canton kurde d'Afrin en janvier-mars 2018 tout à l'ouest de la Syrie, nord-ouest de la Syrie. Puis une opération improprement appelée Source de paix en octobre 2019 qui prolongeait en fait une bande de sécurité pour les Turcs avant une quatrième bouclier de printemps, mais surtout depuis novembre, le 20 novembre 2020, il y a une nouvelle opération de l'armée turque, Griffe épée, qui est destinée en réalité à essayer d'assurer une continuité territoriale d'une bande terrestre de 30 km pour repousser les Kurdes à l'intérieur de la Syrie et établir un glacis qui permettrait d'ailleurs aux réfugiés syriens de se réinstaller dans le nord de la Syrie et de diminuer d'autant d'une certaine manière le poids politique et militaire des FDS contrôlés par les Kurdes de Syrie.
Le dossier kurde qui est l'un des axes de crispation dans les relations bilatérales aujourd'hui entre la France et la Turquie.
Oui, notamment parce qu'évidemment la France a été à bénéficier de l'aide efficace des Peshmerga kurdes, comme le reste de la coalition internationale. Et c'est pas forcément un hasard si le 2 décembre dernier, les FDS ont interrompu la coopération avec la coalition justement anti-Daesh en disant que toutes les opérations de contre-terrorisme conjointes avec la dite coalition cessaient, dans la mesure où les Kurdes syriens n'étaient pas entendus dans leur demande de protection de la part de justement des Occidentaux du fait des menaces des opérations turques. Et évidemment, en arrière-plan, il y a la question aussi de l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, et la Turquie, évidemment, instrumentalise notamment son droit de veto pour l'intégration de deux pays, en l'occurrence la Finlande et la Suède, dans le cadre du théâtre européen avec la guerre en Ukraine. Et donc il y a un télescopage en fait d'intérêts contradictoires qui fait que les Occidentaux sont obligés aussi de ménager le président Erdogan, qui a la perspective des élections prochaines de juin 2023, pour effectivement vis-à-vis de la question kurde syrienne, ça explique évidemment le désarroi des Kurdes de Syrie aujourd'hui.
Qui sont aujourd'hui les principaux alliés des Kurdes ?
Le problème, c'est que les principaux alliés sont les Occidentaux, qu'ils ont aidés justement dans la lutte contre Daesh. Il faut rappeler quand même que le dernier bastion de l'État islamique avait été pris par les Kurdes en 2019, à Baghouz notamment. Et puis la chasse au chef justement de l'État islamique. Mais on peut noter que le dernier chef de l'État islamique aurait été tué mi-octobre 2020, dont l'annonce a été faite le 30 novembre, aurait été tué dans le sud de la Syrie et non plus comme jusqu'à présent ses prédécesseurs dans le nord de la Syrie, avec une aide évidemment effective des FDS probablement. Et donc ça minimise d'autant, d'une certaine manière, le poids stratégique que peut représenter les FDS sur l'échiquier syrien, aujourd'hui qu'il est acté que le régime de Bachar al-Assad ne tombera pas et que les Turcs, évidemment, ont des velléités d'opérations militaires de plus en plus marquées sur le nord de la Syrie.
Et le sentiment d'oppression de ce peuple, comment est-ce que vous pouvez l'évaluer ?
Il a toujours la perception d'un sentiment d'abandon, parce que l'histoire kurde est une histoire tragique, et une des faiblesses des Kurdes, c'est souvent leur division aussi, interne, sur lesquelles les pays qui hébergent les populations turques jouent évidemment de concert. Je pense à Ankara, Téhéran, voire Damas. Et de ce point de vue-là, les Kurdes sont souvent une variable d'ajustement géopolitique en fonction de l'évolution de la situation régionale. C'est toujours le problème. Même s'ils ont su se rendre indispensables, et notamment, on l'oublie souvent, mais dans la prise en charge des djihadistes emprisonnés dans les prisons au nord de la Syrie, en l'occurrence la prison d'Al-Hol ou d'autres. Et là, on retrouve la question notamment de la prise en charge judiciaire de ces combattants de l'État islamique incarcérés, dont nombre de pays occidentaux ne voulaient pas, même si aujourd'hui, un pays comme la France a été obligé finalement de changer de doctrine en acceptant le rapatriement d'un certain nombre d'entre eux, les derniers en date, le 20 octobre dernier.
Ce que demandent d'ailleurs de nombreuses organisations non gouvernementales, de nombreuses ONG.
Absolument. D'ailleurs, la France a été obligée de prendre en compte une mise en demeure de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 septembre dernier qui demandait effectivement la prise en charge de ces prisonniers dont les Kurdes ne sont pas en mesure de pouvoir maintenir la détention de manière pérenne, faute de moyens à la fois, on va dire, judiciaire et militaire.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le corps de Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 96 ans, est exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il s'agit de rendre un dernier hommage au feu pape émérite. Ses funérailles sont prévues jeudi prochain. Les médecins libéraux poursuivent leur grève en France. Ils souhaitent que le coût de la consultation passe de 25 à 50 euros. En parallèle de la grève qui va durer toute la semaine, une manifestation sera organisée jeudi prochain à Paris. Elisabeth Borne recevra les partenaires sociaux ce mardi et ce mercredi. Des discussions sur le projet de réforme des retraites qui prévoit notamment de repousser l'âge de départ. Une mesure à laquelle s'opposent les syndicats. Emmanuel Macron a confirmé samedi lors de ses vœux son intention de lancer rapidement la réforme du système de retraite en vue d'une application dès la fin de l'été prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h et Benjamin Malot, conseiller du 17e arrondissement de Paris, délégué du parti Horizon, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.